Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les autorités redoutent énormément le week-end qui arrive là avec la chaleur. Les hôpitaux sont déjà saturés. Vous entendrez concrètement ce que ça veut dire à Rennes. La consommation d'alcool est interdite aujourd'hui à Paris pour éviter de faire gonfler les chiffres. Les collégiens passent le brevet à partir de ce matin. Épreuve adaptée cette année avec la chaleur. Plus de pauses, on sera à Toulouse. Et les Bleus rejouent à la Coupe du Monde. Dernier match de poule contre la Norvège avec encore des orages annoncés.
Est-ce que ce sera respecté cette fois? La consommation et la vente d'alcool sont interdites aujourd'hui à Paris.
Alors on se souvient que la même décision avait été prise pour la fête de la musique. Ça n'avait pas du tout été respecté le week-end dernier. Aujourd'hui, le préfet de police décide donc d'interdire la consommation d'alcool à partir de midi et la vente à partir de 18h en expliquant que l'alcool provoque des effets dévastateurs au soleil. On en pense quoi, tiens, sur les quais de Seine ce matin?
Moi, d'un point de vue personnel, j'avoue que ça m'embête un peu parce que on va moins en profiter de notre week-end. Maintenant qu'on est au courant de l'information, on va anticiper le coup. C'est vrai que c'est pour la sécurité de tout le monde.
Ça fait déjà 10 jours qu'on est dessus. C'est peut-être un peu tard pour réagir.
Je pense que dans tous les problèmes de chaleur, c'est pas l'alcool le vrai problème. C'est plutôt les politiques qui gèrent ça.
C'est une mesure qui est compréhensible pour éviter aussi de mobiliser trop les pompiers ou le SAMU. C'est vrai que la prendre à la fin, ce qu'on a l'impression être la fin de la vague de chaleur, c'est ça que j'ai un peu plus de mal à comprendre.
Alors, je précise que la vente et la consommation d'alcool assis dans un bar ou au restaurant, donc ce soir par exemple pour le match des Bleus, eh bien cette consommation-là reste autorisée. Mais cette décision est prise car les hôpitaux sont déjà saturés à Paris, c'est ce que dit le préfet, et que le week-end sera compliqué dans les hôpitaux, c'est ce que dit la ministre de la Santé. C'est déjà le cas par endroits, comme ici à Rennes, nous explique le correspondant RMC Martin Lange.
Une salle d'attente pleine, la queue devant le guichet d'admission. Dès les premières heures de la journée, les urgences du CHU de Rennes sont prises d'assaut. Manon est aide-soignante.
Il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées. On a besoin de les hydrater en permanence. Tous les soins sont compliqués. Les soignants courent partout, il y a des brancards déjà partout à l'accueil. On ne sait plus par où commencer, quoi.
Devant les urgences, Kelly, ambulancière, enchaîne les allers-retours.
Une hausse des interventions, beaucoup, beaucoup de malaise. Les temps d'attente pour les transmissions aussi aux urgences sont beaucoup plus longs. C'est bien compliqué aussi à l'intérieur pour les brancards. On arrive parfois dans le SAS, il n'y a plus de brancards. C'est vraiment le bordel, c'est très compliqué pour tout le monde.
L'hôpital a activé son plan blanc, des interventions ont été déprogrammées et des personnels rappelés. Mais selon Nathalie Loinsard, infirmière et représentante du personnel, c'est tout l'hôpital qui est en surchauffe.
Il fait 36-40 degrés, et même dans les chambres. On doit faire comme on peut, avec des draps sur les fenêtres, avec des couvertures de survie, avec des ventilateurs qu'on met à droite, à gauche. Jamais on a travaillé dans ces conditions-là.
D'ailleurs, hier, des soignants des services de gériatrie et de neurologie ont fait valoir leur droit de retrait en traitant seulement les urgences vital.
Et c'est dans ce contexte que 850 000 élèves se lanceront à partir de 9h, là ce matin, dans les épreuves du brevet des collèges. C'est le français aujourd'hui. Un brevet nouvelle formule, avec moins de contrôle continu, mais surtout un brevet sous canicule. Le ministre de l'Éducation promet d'ailleurs davantage de pauses pendant les épreuves. Concrètement, écoutez comment ça va se passer dans le collège de Pierre Labeste. Il est principal à Toulouse.
On a priorisé toutes les salles qui sont équipées par le conseil départemental de ventilateurs. Les invités à venir en tenue la plus légère possible pour ne pas souffrir de la chaleur. D'avoir une gourde, c'est vivement conseillé. Mais au besoin, on a prévu, dans nos frigidaires sont pleins de bouteilles d'eau qui, je l'espère, trouveront un bon usage dans le courant de cette première épreuve de français.
Et alors, près de Tarbes, les élèves d'un petit collège vont passer le brevet ce matin dans un monastère. Tout a été délocalisé dans ce monastère pour profiter de la fraîcheur, dit la préfecture. Et on apprend d'ailleurs ce matin que EDF va débloquer 80 millions d'euros pour équiper rapidement tous les établissements scolaires de solutions de rafraîchissement.
Et notez, mon invité à 8h30, ce sera Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Les hôpitaux qui sont saturés. Appelez-nous surtout au 3216, appelez-nous pour témoigner. Vous êtes peut-être prof, vous allez surveiller aujourd'hui le brevet, dans quelles conditions. Vous êtes parent, appelez-nous également pour nous dire si ça a contribué à stresser davantage votre enfant. Et puis si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, appelez-nous aussi pour nous dire si ça tient effectivement face aux afflux de patients. Le 3216 vous est ouvert.
Alors la réponse politique à ça, eh bien il y aura une nouvelle réunion de crise interministérielle cet après-midi 16h. Emmanuel Macron salue le gros travail d'adaptation qui a été fait tous ces derniers jours. Et Sébastien Lecornu adresse une lettre aux maires pour les remercier et défendre l'action de l'État. Une des actions, justement, Romain Houk pour RMC, eh bien, c'est de mobiliser les facteurs pour rendre visite aux personnes âgées.
Oui, ce sont 40 000 employés de la Poste qui vont être déployés dans le cadre de ce dispositif. Concrètement, ces agents vont sonner chez les personnes vulnérables, les personnes isolées, souvent âgées, pour s'assurer qu'elles ne souffrent pas trop de la chaleur ou ne sont pas en situation de détresse. Très bonne idée, dit Stéphane Chevet, il est représentant CFDT à la Poste.
Je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire, d'autant plus que beaucoup de seniors se retrouvent dans des situations d'isolement social. Donc le fait d'avoir une visite du facteur fait en sorte que cet isolement soit rompu au moins quelques instants dans leur journée.
Et si jamais le facteur n'obtient pas de réponse après plusieurs coups de sonnette, alors il devra interroger les voisins et contacter les secours si besoin. Et là, on outrepasse les compétences des facteurs, assure Olivier Roset de la Fédération Sud PTT.
Ça n'est pas à nous à faire ce travail. On n'est pas des professionnels du médico-social, ça ne peut pas marcher.
Sébastien Lecornu l'assure, ce dispositif ne doit pas remplacer l'action des professionnels de santé, mais simplement la compléter.
On en parlait hier matin à cette heure-là. Je vous signale que la piste de l'agression pour un motif racial est écartée à Narbonne après la mort d'un jeune de 17 ans qui a été tabassé à mort par 5 autres jeunes, dont 3 mineurs, en fin de semaine dernière. Ça, c'est le premier gros week-end de l'été sur la route. La journée est classée orange au niveau national, et même rouge dans tout le Nord-Ouest. Pour ceux qui vont d'ailleurs vers la Méditerranée, c'est une des conséquences de la canicule. La température de l'eau a pris 7 degrés en 7 jours à Marseille. C'est ce que relève ce matin le journal La Provence.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
On redoute encore les orages hein. Aujourd'hui à la Coupe du Monde, temps orageux qui est annoncé à Boston où les Bleus joueront ce soir leur troisième et dernier match de poule contre la Norvège. On se souvient tous du match à rallonge hein, en début de semaine à cause justement des orages. Les Américains prennent zéro risque, hein, vous savez avec ça. Et donc ce soir à 21h, c'est Guy Stéphan qui sera sur le banc des Bleus à la place de Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère.
J'ai la sensation que je suis pas à ma place. J'ai une pensée très forte, évidemment, pour Didier et sa famille, moi et l'ensemble du staff et les joueurs. J'ai beaucoup d'échanges avec lui. J'en ai eu encore il y a quelques minutes. Ça sera le cas jusqu'au match. Je vais m'efforcer de rendre une situation qui est difficile. Je vais m'efforcer de la rendre la plus normale possible.
Alors les Bleus veulent gagner hein, ce soir pour finir premier de leur groupe. Au minimum, il faut faire un match nul. Ils veulent rester en fait sur la côte est des États-Unis pour la suite de la compétition. États-Unis, tiens, qui ont perdu cette nuit 3-2 contre la Turquie avec un but à la dernière minute. La nuit prochaine, dans la foulée des Bleus, à 5h du matin, il y aura le match entre l'Égypte et l'Iran qui a été désigné comme étant le match des fiertés, impliquant donc ces deux pays qui répriment hein, l'homosexualité. Les festivités sont prévues à Seattle où aura lieu la rencontre. Et Xavier Grimaud pour RMC s'appelait ni aux Égyptiens ni aux Iraniens.
Oui, pour les deux fédérations, être associé à ce match des fiertés est une provocation. Les deux pays s'en sont vertement pleins. Mahmoud Essa, les journalistes pour le média égyptien Yala Kora.
Ce n'est pas légal, on a un problème avec ça. On fera tout ce que l'on peut pour laisser l'histoire de fierté loin de nous. On ne laissera rien qui puisse encourager ça.
Away from us. La gêne est la même pour les supporters égyptiens.
Je pense que tout le monde veut surtout penser avoir un bon match. On se concentre sur le sport et pas sur les autres sujets.
Le comité d'organisation lui se défend. Les célébrations autour de ce match étaient prévues de longue date, bien avant de savoir quelles équipes s'affronteraient. À Seattle, le dernier week-end de juin est une grande fête des fiertés depuis 50 ans, rappelle Eda McClendon, la vice-présidente.
Je pense que c'est une opportunité d'amener de la visibilité aux fans égyptiens et iraniens, de montrer à quoi ressemble une autre culture. Un méga événement comme une Coupe du Monde, c'est ce qui rassemble le monde en y célébrant l'inclusion pour unir au-delà de l'équipe qu'on supporte.
Et dans les tribunes, les drapeaux arc-en-ciel seront autorisés aux côtés de ceux de l'Iran et de l'Égypte, laissant craindre quelques tensions.
Et la nuit prochaine, on reverra aussi l'Espagne contre l'Uruguay dans une ambiance très latine, puisque ce match aura lieu au Mexique. Tiens, d'ailleurs, l'Espagne et le Mexique profitent de l'occasion pour se réconcilier après des années de brouilles indifférentes autour de la conquête espagnole de l'Amérique. Voilà aussi à quoi sert la Coupe du Monde.
C'était le journal de Quentin Vigne à 8h10, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour.
Emmanuel, la France n'a plus les moyens d'affronter une crise ni d'investir pour son avenir.
Oui, les finances publiques, c'est comme le réchauffement climatique. Apolline, ça fait 40 ans que les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et ça fait 40 ans que la situation ne cesse de se dégrader. En pleine canicule, c'est la Cour des comptes qui fait monter la température budgétaire. Pour la troisième année consécutive en 2026, les déficits publics seront supérieurs à 5% du PIB. La dette publique devient exorbitante. Songez que rien que cette année, elle va augmenter de 160 milliards d'euros. Alors pour financer cette dette, la France emprunte, comme tout un chacun. Eh bien, songez que le seul remboursement des intérêts de cette dette, ça va atteindre 77 milliards d'euros cette année. Alors 77 milliards d'euros, vous me dites c'est quoi ? Bah 77 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale et de la culture réunis, ou pour le dire autrement, c'est l'équivalent des budgets de la défense, de la police et de la justice.
Et ça, c'est juste le remboursement.
Ça, c'est juste le remboursement. Vous n'avez pas commencé à rembourser le premier euro de dette avec...
C'est juste les intérêts.
Avec ça, exactement, juste les intérêts.
Et pourtant, les besoins d'investissement, j'ai l'impression, n'ont jamais été aussi importants.
Alors, ils le sont d'autant plus que la France a cessé depuis 40 ans d'investir dans son avenir, donc dans ses infrastructures. Le résultat, c'est qu'il faut aujourd'hui trouver 200 milliards d'euros pour rénover nos réseaux électriques, 100 milliards pour rénover nos réseaux et nos routes, 100 milliards pour le réseau ferroviaire, 60 milliards pour moderniser notre réseau d'eau, sachant qu'il faudra aussi trouver, mais par an cette fois-ci, 60 milliards pour la transition écologique, ça veut dire rénovation des bâtiments, décarbonation des transports, plus 10 milliards pour le grand âge. Vous vous rappelez de la phrase des années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Ouais.
Ben là, maintenant, on n'a plus d'argent, donc il va falloir quand même qu'on ait des nouvelles idées.
Sûr, là. La France, c'est vraiment la cigale qui a bien chanté et bien dansé. Les chiffres du jour, Emmanuel.
Eh bien, sur les carburants, on est plutôt stable, là, avec l'égalité quasi parfaite.
Ça descend plus, quoi.
Entre le gazole et le samplon 95. Bah, on a un petit seuil de résistance, un peu en dessous de 1,90€ le litre pour le moment. Le pétrole qui a quand même bien baissé, hein. Il a perdu 6$ le baril en une semaine. Là, on est autour de 73,6$ le baril. Et puis le gaz est stable, 41€ le mégawatt.
Merci Emmanuel, 8h13. Et dans un instant, Arnaud Demanche arrive pour nous faire rire. Restez bien avec nous à 8h30. Mon invité dans le face-à-face, c'est le chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin. Appel au SAMU multiplié par 2, urgences saturées, des chambres parfois non climatisées. Et hier, cette patiente qui est morte dans une chambre d'hôpital, non pas de sa pathologie, mais de la chaleur. Ça s'est passé, semble-t-il, en Bretagne. Philippe Juvin, mon invité donc à 8h30. Sur RMC et BFM TV, ne le manquez pas. À 8h50, Mathieu va faire un premier bilan de la Coupe du Monde.
Oui, avec le dernier match de poule des Bleus ce soir, France-Norvège, on en a parlé tout à l'heure, on va s'arrêter un peu sur l'ambiance aussi en dehors des stades, les prix des billets, est-ce que c'est un début de Coupe du Monde réussi ?
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h07 sur RMC, tous les jours, Arnaud de manche. Enfin là, il n'est pas tout à fait là, il revient lundi, on en a gardé le meilleur. Écoutez, Arnaud qui revient sur une actrice qui se lance dans le cinéma.
Dites donc, Apo.
Ouais.
Qu'est-ce que j'apprends pas ?
Quoi,
je lisais les cahiers du cinéma hier. Vous allez devenir actrice ? Et oui, Apo va jouer dans Baron Noir, la série de Canal+.
Ouais.
C'est une nouvelle carrière qui commence. J'espère que vous aurez un César pour ce rôle.
Ah bah j'espère aussi.
Remis par Dominique Besnéard lui-même. Chers amis, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce César du meilleur espoir féminin à Apolline de Malherbe, merveilleuse, radieuse, pour son rôle d'Apolline de Malherbe. Là, j'ai jamais vu quelqu'un jouer Apolline de Malherbe aussi bien qu'Apolline de Malherbe. Alors, Apo, j'ai un projet à te proposer.
Oui.
Alors, c'est disruptif, hein. Attention, c'est pas Baron Noir, c'est un projet pakistanais.
Ah.
C'est une métaphore de la crise du détroit d'Hormuz et ses futurs palmes d'or à Cannes. Tu jouerais une gardienne de puits dans une steppe désertique en Azerbaïdjan qui surveille un puits désaffecté après l'AVC du précédent puisatier interprété par Jean-Jacques Bourdin. Chaque matin, tu vas au puits, tu t'assois, tu tournes une valve et tu regardes cette eau qui ne coule pas. Alors tu interroges, mais cette fois du regard intérieurement, le monde et l'absurdité bureaucratique. Tout ceci dure 23 ans et un jour... Une fonctionnaire du ministère de l'économie américaine. Alors pour la jouer, j'ai pensé à Edwige Chevrillon de BFM Business,
oui.
la femme frontale directe, et en même temps la femme fleur, la femme fruit. La fonctionnaire t'annonce « Notre gouvernement veut rouvrir le puits et le contrôler ». Alors tu ne réagis pas, mais imperceptiblement quelque chose s'est fissuré.
Ah oui.
Et tu développes une relation silencieuse avec le vide du puits.
Oui,
tu lui parles sans mots et le vide ne répond pas.
Ah.
Mais par moments, il semble respirer.
Ah,
tu poses
bon.
Alors ta première question. Pourquoi ? Et après, on se doute, il y en aura beaucoup d'autres. Ça s'appelle le détroit intérieur, celle qui veillait sur l'eau absente. Tu vas cartonner.
Moi,
je veux voir ça.
C'est clair.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
En cas d'urgence, ils peuvent appeler RMC. Il y aura toujours quelqu'un qui sera ravi de leur parler à notre standard. Ah, un auditeur qui nous appelle. Salut et bienvenue à la libre antenne d'RMC Gold, la radio musicale d'RMC pour tous les fans de Gold. On vient d'écouter à l'instant Capitaine Abandonné, je crois. Et tu voulais réagir à cette chanson, cher auditeur.
Non, pas du tout. Mon bateau est coincé dans le détroit d'Ormuz et tout le monde s'en fout.
Mais non. Attends, t'es vraiment un capitaine abandonné? C'est dingue. Alors on va se la remettre.
Capitaine abandonné.
Qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez appeler les secours, prévenir l'armée.
Attends, tu peux nous en dire un peu plus sur la chanson? Comment tu l'as composée, capitaine abandonné?
Mais je suis pas musicien, merde. Je suis capitaine d'un pétrolier, j'appelle du détroit d'Ormuz.
Et t'es en tournée au Moyen-Orient avec Desireless, ça, c'est génial.
Je peux parler à un militaire.
Bon, on te bascule sur RMC. RMC, bonjour, bienvenue dans Apolline Matin.
Bonjour, je suis capitaine de pétrolier.
Eh ben bravo, vous avez gagné un plein d'essence. Bon, appelez ailleurs les mecs. C'est plus prudent. Bon courage.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Arnaud Demange qu'on retrouve lundi en direct sur RMC et RMC Story. Il est 8h20 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, ce sera le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Par ailleurs, député des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, est rapporteur du budget. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport d'ailleurs entre budget et situation extrêmement critique, hein, extrêmement critique, vous le savez, à l'hôpital. Ça craque depuis hier. Et pourtant, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron dit « on s'est adapté ». Vous êtes nombreux à réagir.
Exactement, Corinne, par exemple, qui nous dit « en colère et stressé » parce que c'est la Macronie qui est au gouvernement et comme d'habitude, on ne gère rien quand on voit les images des hôpitaux qui sont obligés de mettre des couvertures de survie aux fenêtres. On a appris qu'il y avait d'autres qui sont décédés parfois à cause de la chaleur. Oui, ça fait peur. Franchement, je serais présidente de la République. J'aurais honte, nous dit Corinne, sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. L'impréparation de l'État nous dit ce message, mais comme d'habitude, je dirais ceux qui osent venir sur les plateaux pour dire que ce qui a été fait pendant 9 ans, ce qu'ils ont mis en place, etc. Les hôpitaux, les écoles, j'en passe vraiment. Je suis dépité, nous dit cet autre message.
Et vos messages donc sur RMC, vous savez, le standard, vous êtes toujours ouvert au 32-16. Il est 8h22, on se retrouve dans un instant sur RMC et BFM TV avec mon invité, donc le patron des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes professeur de médecine, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, à quelques mètres de ce studio. Vous êtes également député LR des Hauts-de-Seine et rapporteur du budget. Mais ce matin, c'est d'abord aux médecins que je m'adresse. Vous avez entendu les propos du préfet de police de Paris hier soir. Les hôpitaux parisiens sont saturés, dit-il. La situation est inquiétante, la pression monte. Que voyez-vous aux urgences à Pompidou?
Depuis lundi, le flux de patients ne baisse pas et il a beaucoup augmenté hier. Il y a eu une pointe hier. J'y étais jusqu'à 22h hier. J'y étais à 7h ce matin et j'y retourne après votre interview. Les couloirs sont pleins de patients plutôt âgés, mais ça commence en réalité à 50, 60 ans désormais. Des gens avec des hyperthermies très, très fortes. Les SDF aussi qui arrivent avec 42 de température. On a des capacités d'hospitalisation qui sont saturées, pour pas dire dépassées. Dans mon service, j'ai 20 lits d'hospitalisation habituellement, en plus du flux des patients des urgences. Et ce matin, nous avons 53 patients hospitalisés. Donc c'est vous dire qu'on est dans une situation de... Quand on dit saturation, c'est
mais
plus que ça.
Mais ça veut dire qu'ils sont où? Ils sont où les 33 en trop?
Ils sont dans des brancards, dans les couloirs, ou sur des lits que nous sommes allés chercher dans des chambres qui étaient désaffectées de personnel dans les étages. Et on essaye de les, entre guillemets, caser, hospitaliser où on peut. Donc c'est une situation extrêmement grave, extrêmement grave. On n'a pas eu de mort cette nuit, mais on a des patients qui sont dans un état très précaire. Moi, ma thèse, enfin c'est pas ma thèse, tout le monde l'observe, c'est que probablement les gens qui meurent avant d'arriver à l'hôpital. Les pompiers...
Votre inquiétude, c'est ce qu'on ne voit pas.
Alors d'abord, mon inquiétude, c'est ce que je vis actuellement, parce que déjà aux urgences, nous avons du mal à avaler les flux. Il y avait 20 patients qui n'avaient toujours pas été vus à 7h du matin. Ça, c'est ma première inquiétude. Et puis la deuxième inquiétude, vous avez raison, c'est que dans les jours qui viennent, on va découvrir probablement à leur domicile des gens qui sont morts tout seuls. Quelle société qui laisse les gens mourir tout seuls? Entre nous, c'est quand même assez fou, et qui sont très déshydratés. Donc oui, on a un pic de mortalité très probablement là depuis hier. Il faudrait regarder les certificats de décès, mais ça doit être possible de les voir dès aujourd'hui. Mais aujourd'hui et demain et après-demain, on va probablement avoir un afflux supplémentaire.
Un afflux supplémentaire, des services saturés. Hier, le chef du SAMU disait qu'il avait eu connaissance également de personnes qui sont décédées, une femme au moins, non pas de pathologie, mais de l'extrême chaleur à l'intérieur même de chambres d'hôpitaux. C'est pas votre cas, je crois, non, à l'hôpital Georges Pompidou, mais de nombreux hôpitaux de France non seulement font face à cette saturation, mais avec des moyens et dans des chambres qui ne sont pas rafraîchis.
Alors, j'ai la chance dans mon service des urgences d'avoir de la climatisation. Ce n'est pas le cas de toutes les chambres de l'hôpital, mais vous savez, la plupart des hôpitaux français sont des vieux hôpitaux, des bâtiments parfois même du début du XXe siècle, même avant pour certains, non climatisés. Et puis, il y a eu toute cette mode absolument délirante depuis 25 ans où dès que vous déposiez un permis de construire, il fallait pas de climatisation. C'était le truc, la climatisation nuit au climat. Enfin, elle nuit au climat, elle nuit d'abord à la santé, l'absence de climatisation. Donc oui, il y a beaucoup d'hôpitaux français où il n'y a pas de clim. Mais il y a beaucoup de crèches où il n'y a pas de clim. Il y a beaucoup d'écoles, la plupart, où il n'y a pas de clim. Il y a beaucoup de logements où il n'y a pas de clim. Et donc ça, c'est une des leçons qu'il faudra tirer. La climatisation.
La question évidemment de l'extrême chaleur, des risques que prennent les uns et les autres. Première décision prise par le préfet hier, l'interdiction de consommation d'alcool dans la capitale aujourd'hui à partir de midi et de vente à emporter à partir de 18h. C'était nécessaire?
Ben, c'était indispensable, mais je dis au préfet de police qu'il a aussi deux autres décisions à prendre.
Lesquelles?
Il y a Solidaise, qui est une grande manifestation musicale, vendredi, samedi, dimanche, festival de musique en plein air, sous le cagnard. Il y a également la marche des fiertés à Paris, samedi. Franchement, c'est totalement déraisonnable, compte tenu de l'état actuel de nos urgences et de nos hôpitaux, où on est déjà sous l'eau, où on a du mal à prendre en charge les patients qui nous arrivent déjà. On va rajouter deux risques supplémentaires. Je pense que tous les gens qui vont participer à la marche des fiertés et à Solidaise vont évidemment comprendre que c'est de l'intérêt général de ne pas faire ces deux fêtes. Ne venez pas en plus ajouter un risque à un risque qui est déjà avéré.
Vous demandez au préfet de police de Paris d'interdire la tenue de ces, d'annuler ces deux manifestations.
Écoutez, c'est deux sujets qu'on évoque depuis 48 heures avec les autorités. Je dis très clairement au préfet de police de Paris, ce n'est pas raisonnable de maintenir ni Solidaise, ni la marche de fierté. Je conçois toutes les difficultés d'annuler tout ça.
La décision a été prise à Lyon déjà. À Lyon, la marche de fierté a été annulée.
Et ils ont raison. Bah, le préfet de Lyon a été bien éclairé. Mais il n'y a pas que la marche de fierté, il y a Solidaise, hein, trois jours.
Solidaise, trois jours, et dans l'état actuel effectivement des urgences, qu'est-ce que vous anticipez des jours qui viennent? On a dit depuis le début de cette crise que les corps étaient mis à rude épreuve, que l'incapacité à se rafraîchir la nuit et la nuit dernière a encore été insoutenable, avait des conséquences parfois en décalé. Qu'est-ce qu'il faut anticiper?
On reçoit des patients qui ont 42 degrés de température. En gros, les deux cibles actuellement, ce sont les patients âgés, parce qu'ils restent chez eux, personne s'occupe d'eux, ils sont abandonnés, les malheureux, et puis un jour, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent? On les retrouve dans un état terrible. Donc ça signifie d'ailleurs que la première leçon, chacun a sa part du travail à faire. Les gouvernants doivent gouverner, les soignants soigner, mais vous, ceux qui nous écoutent, dès que l'émission est finie, il faut qu'ils se lèvent, ils vont taper à la porte du voisin, et ils vont demander si ça va, ils vont lui apporter une bouteille d'eau fraîche. Et quand vous voyez un SDF dans la rue, vous prenez une bouteille d'eau glacée et vous lui donnez. C'est ça qu'il faut faire. Chacun peut jouer un rôle.
Chacun peut jouer un rôle. Et il ne faut pas oublier, et c'est très important le message que vous faites passer ce matin, c'est aussi la question d'aller s'occuper de ses voisins, de ceux qui sont seuls,
et le SDF,
des plus âgés, et des SDF,
à qui on donne à boire. Glacée, voilà. Ça, si on fait pas ça, honnêtement, on est dans une société où la fraternité ne veut rien dire. Moi, j'en peux plus de cette société de gens égoïstes. Donc, allez-y, vous avez chacun un rôle à jouer. Et puis, il y a un deuxième sujet, bien entendu, c'est que on va trouver dans les jours qui viennent des gens qui sont chez eux et qui probablement sont en train de mourir chez eux. Donc, vous pouvez réduire la mortalité en allant dès 9h de la taper chez le voisin. Le risque, il est là, bien entendu. Alors, je vous parle même pas du fait que les hôpitaux doivent annuler les patients qui sont programmés.
Ça, il y a des annulations déjà aujourd'hui.
Ah bah, s'il y en a pas, oui, il y en a, bien sûr.
Il y en a, vous l'avez constaté.
Et il faut probablement continuer à en faire beaucoup plus parce que je regarde les urgences. Vous avez compris les chiffres que je vous donnais. Bah, il faut que je trouve, ne serait-ce que pour l'hôpital Pompidou, mais c'est pareil partout en fait en Île-de-France, une trentaine de lits d'hospitalisation. Où est-ce qu'on les trouve ces lits? On va pas les créer comme ça. On les trouve tout simplement parce qu'on annule des patients qui devaient venir. Vraiment, ce qui nous attend, c'est probablement, il y a des morts qu'on n'a pas encore identifiés, qui sont chez eux, comme je vous le dis, mais il est probable que le pic de mortalité qui a dû avoir lieu hier, bien, il va se poursuivre pendant 2-3 jours minimum.
Ce sont des, vous le disiez, des gens qui ont des décompensations parfois de maladies chroniques. Ce sont également des arrêts cardiaques supplémentaires, ouais, y compris ouais, chez des plus jeunes qui se mettent dans des situations de risque.
Alors évidemment, le jeune qui se met à faire du sport à 30 ans, il faut lui dire d'arrêter. Il nuit à sa santé et il nous pose un problème. Mais quand je dis des patients âgés, il y a beaucoup de patients âgés, beaucoup, c'est évident. Mais il y a aussi des gens qui sont relativement peu âgés. Enfin, on a des cinquantenaires aujourd'hui aux urgences, qui souffrent de décompensation de leur maladie de base. Ils ont une insuffisance cardiaque, une maladie respiratoire qui décompense. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de maladie de base, tout simplement qui sont en bonne santé, mais qui, quand ils ont 42 degrés de température, font un coma, font des convulsions. Et nous avons des gens qui, probablement, peuvent mourir uniquement d'hyperthermie. C'est-à-dire, il faut bien que les gens comprennent que la chaleur en elle-même, elle tue. C'est pas parce qu'on n'a pas de diabète, on n'a pas d'insuffisance cardiaque, qu'on ne meurt pas d'hyperthermie. Si vous vous retrouvez en plein soleil et que votre température corporelle monte à 42 degrés et que vous ne faites rien, vous allez mourir.
Philippe Juvin, réquisition d'un certain nombre d'étudiants en médecine, c'est une bonne chose?
Moi, je prends tout. Les étudiants en médecine, les postiers, tout est bon à prendre. Vous voyez, je suis assez facile. J'ai simplement besoin que les autorités prennent les bonnes décisions sur les grands rassemblements. Donc, je vous ai parlé de solidaise et de la marche des fiertés. J'ai besoin que chacun aille taper à la porte du voisin et à donner leur donner de l'eau ainsi qu'au SDF. Et puis, nous avons besoin, évidemment, à très court terme, de moyens supplémentaires, de bonne volonté. J'ai rappelé tous les médecins qui ont un jour travaillé dans le service pour qu'ils viennent nous donner un coup de main.
Et ils ont répondu à l'appel?
Un certain nombre ont répondu dès ce matin, 7h, dès le premier message. Et ceux qui m'écoutent, qui n'hésitent pas à m'appeler, on a besoin d'eux.
Ça, c'est les besoins humains. Il y a aussi les besoins matériels. On parlait là à l'instant de la question de la climatisation, mais même à très court terme, est-ce que vous avez suffisamment de matériel nécessaire? Est-ce que vous avez, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait rafraîchir ceux qui arrivent. On l'a vu sur BFM TV l'autre jour, ces fameux lits dans lesquels on met des glaçons pour rafraîchir de manière immédiate et franche des corps en surchauffe. Est-ce que ça, vous avez les moyens? Est-ce que ça, vous les avez?
Quand quelqu'un arrive à 42 degrés, on le déshabille complètement, on le met dans une baignoire et on lui met de l'eau avec des glaçons pour avoir de l'eau à 5-10 degrés. C'est la seule condition qui fait qu'à 42, il va passer, il va diminuer jusqu'à 37. C'est comme ça qu'on sauve les gens aujourd'hui. Et dans les voitures de pompiers, dans les ambulances de pompiers, dans les premiers secours, il y a, et dans la protection civile, il y a des baignoires, On en a deux à Pompidou qui marchent full time. Donc il y a un sujet de logistique pour avoir des glaçons, donc là on en a. Il faut que ce sujet soit absolument verrouillé, il faut pas qu'il y ait une rupture de glaçons, il manquerait plus que ça. Et puis j'appelle également tous ceux qui vendent des climatiseurs à se rapprocher de l'EHPAD à côté de chez eux ou de l'hôpital à côté de chez eux pour voir s'ils peuvent pas les aider à en fournir.
Professeur Philippe Juvin, il y a aussi l'été qui vient. Nous ne sommes qu'en juin. Mmh. Aujourd'hui, vous avez la main-d'œuvre au max, c'est-à-dire que les gens ne sont pas partis en congé, les infirmières, les infirmiers, les médecins, il n'y a plus il y a les équipes, j'allais dire, normalement, dans leurs effectifs globaux. Est-ce que vous redoutez les futures canicules, s'il y en a, et on anticipe déjà qu'il y en ait, dans les semaines ou dans les deux mois qui viennent?
Il est sûr qu'en hiver, on a l'épidémie de grippe qui arrive quand il fait froid et quand les gens sont en vacances d'hiver, et les canicules, ça arrive plutôt quand les gens sont en vacances d'été. Donc c'est sûr que en été et en hiver, nous avons peu de marge de manœuvre. Le problème, c'est notre capacité à réagir. réagir en termes de personnel médical, mais aussi paramédical. C'est une chose d'avoir des médecins. Mais si vous n'avez pas d'infirmière pour ouvrir des lits d'hospitalisation, en fait, les lits restent fermés. Donc c'est vrai qu'il y a la question de la climatisation, de la solidarité intergénérationnelle, mais il y a cette question très, 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 très claire. Moi, ça fait des années que je vous dis une chose très simple, c'est qu'on ne forme pas suffisamment de personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre. Pour vous donner un exemple, les Anglais ont doublé le numerus clausus, doublé. Ils ont formé deux fois plus de médecins. Nous, on ne l'a pas fait, on a fait plus de 15%.
On l'a rouvert, mais enfin...
15% voilà, en plus. 15% et on s'est dit, c'est formidable, on est des champions. Non, et ça, on est des champions. Mais il faut doubler le numerus clausus. En fait, la question qui se pose en France en matière de santé, c'est la même qu'en question budgétaire, c'est l'absence de marge de manœuvre.
C'est ce que j'allais vous dire, et j'y viens aussi à cette question du non-investissement ou de tout ce qui craque. Aujourd'hui, vous nous parlez des urgences où vous êtes obligé, j'allais dire presque, de faire des tris. Alors aujourd'hui, ce sont des opérations que vous pouvez décaler pour pouvoir libérer des lits, mais au fond, le débat la semaine dernière sur la justice, il avait cette même toile de fond qui est la question de la saturation et des choix qui sont faits et parfois dans l'urgence. Philippe Juvin, vous êtes également rapporteur du budget. Quand vous entendez Emmanuel Macron hier soir qui dit « on s'est adapté », est-ce que vous estimez que c'est le cas ?
On s'est adapté à quoi ?
Au réchauffement climatique, dit-il, on a fait en sorte de s'adapter. Non, vous avez l'air de vous dire pas du tout.
Vous savez, je suis un homme de science, hein, je regarde les choses. Est-ce que tous nos hôpitaux sont climatisés ? Non. Est-ce que les écoles sont climatisées ? Est-ce que les crèches le sont ? Est-ce que les EHPAD le sont ? Est-ce que les logements le sont ? Non. Donc, je crois même que jusqu'à une date très récente, le fonds vert, qui est ce fonds qui permet de financer la transition écologique, je crois que le fonds vert excluait le financement de la climatisation.
Il l'exclut toujours, je vous le confirme. Hier la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, qui s'en indignait.
Disait qu'à
titre personnel, elle était favorable à l'idée, effectivement, que ce fonds puisse également être ouvert à la climatisation des écoles, notamment, ou des EHPAD. Mais au moment où l'on se parle, ce fonds vert ne peut pas être utilisé si il y a climatisation par les collectivités locales, donc.
C'est une absurdité. Maud Bréjon est quelqu'un de très grande qualité que je connais, c'est un très bon ministre. Je dis simplement que les ministres ne sont pas là pour commenter l'actualité, ils sont là pour la faire. Donc, on vient de s'apercevoir de cette idiotie que le fonds vert ne pouvait pas financer la climatisation dont nous avons besoin pour sauver des vies. Dans ces cas-là, on change les choses. Ou alors, ça ne sert à rien d'être élu, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, on ne s'est pas adapté. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, le nouveau gouverneur de la Banque de France a alerté, la Cour des comptes alerte à nouveau hier soir, alerte rouge sur les finances de la France, la dette qui ne fait qu'augmenter, l'objectif de 5% sera vraisemblablement pas du tout atteint cette année. Avons-nous les moyens, là, vous êtes rapporteur du budget, de financer tous ces services publics qui craquent ?
Non. Non, puisque là aussi, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Et le premier budget de l'État va devenir la charge de la dette. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre plusieurs dizaines de milliards tous les ans dans les hôpitaux, les écoles, la recherche, le futur, eh bien nous les donnons à ceux qui nous ont prêté, à des fonds de pension américains par exemple, qui nous ont prêté de l'argent. En fait, nous sommes tenus à la gorge par la dette, qui est désormais hors de contrôle. La Cour des comptes, la Commission européenne, considère que le déficit en fin 2027 sera de 5,7% et probablement on sera au-dessus de 6%. Pour que les gens comprennent, notre engagement il y a un an, c'était qu'au même moment, fin 2027, nous aurions dû être à 4,1%. Tous ces chiffres ne veulent peut-être rien dire pour les gens. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que la dette est hors de contrôle.
Elle est hors de contrôle.
Ouais. Et le risque, désormais, c'est que les gens qui nous prêtent de l'argent exigent des taux de plus en plus importants parce que leur confiance s'érode. Et c'est valable pour le budget de l'État comme pour le budget de la Sécurité sociale. C'est même plus grave pour le budget de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle l'ACOS, avec un risque de liquidité. C'est-à-dire de gens qui nous disent finalement on vous prête plus. Mais qu'on vous dise on ne vous prête plus ou on vous prête à des taux très importants, ça revient quasiment au même. Que les gens comprennent que comme les décisions ne sont pas prises, et comme il y a des gens qui continuent à dire mais il n'y a pas de sujet de dette, il y a quand même des gens qui racontent cette petite histoire pour enfants, le premier budget du pays désormais, c'est de payer ses dettes. Ben, quand vous êtes dans un ménage où la première dépense, c'est de payer la dette, vous comprenez bien que vous n'êtes pas en état de faire aucun investissement.
Les intérêts de la dette, cette année, ça sera déjà plus rien que les intérêts de la dette, plus que le budget de l'éducation nationale. Les jeunes, Philippe Juvin, dans 15 minutes, c'est le début du brevet, les épreuves du brevet donc pour tous les collégiens de France. Finalement, ces épreuves ont été maintenues, avec certes des pauses fréquentes. pêcheur. Est-ce que ça, vous pensez qu'on peut faire face? C'était pas une erreur?
Non, mais entendons-nous, le gouvernement n'est pas responsable de tout, il n'est pas responsable de la chaleur. Ce que je dis simplement, c'est que d'abord, il a raison que l'État continue à fonctionner, on ne va pas aussi arrêter le brevet, mais il faut maintenant prendre la décision ferme de se dire, désormais, on a compris qu'on s'était trompé, par exemple, sur la climatisation, et on y va. Vous voyez, il faut tirer des leçons. Il faut passer d'une France qui se lamente à une France qui se tire des leçons. Une des leçons, c'est que nous devons nous redonner des marges de manœuvre en tout, budgétaire, mais aussi en matière de santé. Climatisons les hôpitaux, climatisons les écoles et arrêtons de chercher la responsabilité des années précédentes.
Je précise que vous êtes vous-même maire également.
J'ai été
vous l'avez été effectivement parce qu'avec le cumul du mandat, vous ne pouvez pas avoir les deux, mais vous avez longtemps été maire. Philippe Juvin, une question aussi sur nos plus âgés. On a parlé de ceux qui sont chez eux, il y a ceux qui sont en EHPAD. Est-ce que vous avez des remontées également là-dessus?
Nous avons beaucoup de patients qui nous sont transférés des EHPAD où il fait très chaud quand elles sont pas climatisées à chez nous, qui sont aussi en très mauvais état. Moi, je vous dis, Je suis accablé par cette société en réalité qui se fiche de ses vieux. Pardon, le mot vieux est un mot qu'on utilise dans notre jargon, il n'a rien de péjoratif médical. Mais on peut pas faire comme si finalement la société n'est qu'une société de droits individuels avec que des jeunes, etc. Je sortais du théâtre avec ma mère avant qu'elle ne décède il y a quelques années, elle me dit « t'as pas vu ?» Regarde, c'était au théâtre à Paris. C'était une journée sympa d'été où les terrasses étaient pleines. Je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, bah, regarde les terrasses. Où sont les vieux? M'a-t-elle dit, c'était sa phrase. Où sont les vieux? En fait, les vieux, on les planque, on les cache, on ne s'en occupe pas et on les laisse abandonner. Donc, je répète, les gens, ils écoutent votre émission. Une fois que c'est fini, parce que c'est une bonne émission, ils ne partent pas avant. Ils vont taper à la porte de leur voisin ou de leur voisine et ils leur demandent si elle va bien.
Et ils apportent une bouteille d'eau et notamment des bouteilles d'eau très fraîches au SDF, le disiez-vous. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été avec nous ce matin, professeur de médecine, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous avez dit y retourner juste après l'émission. Vous êtes également député LR des Hauts-de-Seine. Merci à vous.
Merci,
vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, il est 8h47, vous restez bien sur RMC à suivre une spéciale Coupe du Monde avec le match France-Norvège ce soir bien sûr et déjà les premiers bilans du Mondial. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51, vous êtes sur RMC, le Mondial de Virginie, c'est avec vous. Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, les toutes dernières infos avant le dernier match de poule des Bleus ce soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Edgar Grolot, journaliste RMC Sport. Bonjour Edgar.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Edgar, vous êtes à Boston. La phase de groupe de la Coupe du Monde touche déjà à sa fin. Le début des 16e de finale, c'est à partir de dimanche. Et alors c'est l'heure d'un premier bilan déjà Edgar. On avait beaucoup de craintes autour de cette Coupe du Monde, sur l'ambiance, sur les prix. Deux semaines après le match d'ouverture, quelle est la réalité sur place ?
D'abord, ce qu'on ressent ici, c'est que l'ambiance est drastiquement différente d'une ville à une autre. Jamais un mondial n'avait été disputé sur un continent entier comme ça. Et donc forcément, la fameuse ambiance Coupe du Monde, eh bien elle varie. Je vous donne un exemple. À Atlanta, le stade est à 10 minutes à pied du downtown. Dans ce centre-ville, il y a une fan zone de 15 000 personnes qui est souvent pleine à craquer. On voit des maillots de foot partout. Les locaux sont à fond dans la Coupe du Monde. Ils ne s'en fichent pas du tout du soccer, contrairement aux idées reçues. Mais en revanche, à Dallas, tout se fait en voiture. Les supporters sont éparpillés un peu partout. Le stade est loin. Quand je suis allé à la fan zone, elle était quasi vide parce qu'elle est très excentrée. Le journaliste américain Sanjay Sujantakumar, qui travaille pour le Guardian, nous a expliqué le phénomène.
Ça dépend de la ville. Dans certaines villes, c'est plus dur d'accéder au stade. Il n'y a pas de fan zone comme à New York, par exemple. Il n'y a pas de barbecue autour des stades. Donc là-bas, c'est différent que dans des villes plus accessibles, où il y a une atmosphère de petites villes, comme à Kansas City ou Philadelphie. Dans tous les cas, les bars et les restaurants vont être pleins. Il y a la fièvre de la Coupe du Monde, mais c'est différent de d'habitude.
Bon, et s'il y a bien un endroit où la fièvre de la Coupe du Monde, comme il dit, a bien pris, c'est au Mexique. J'ai eu la chance d'être à Mexico pour le match d'ouverture et la passion des gens pour le foot était palpable à chaque coin de rue.
Ça dépend de la ville. Dans certaines villes, c'est plus dur d'accéder au stade. Il n'y a pas de fan zone comme à New York, par exemple. Il n'y a pas de barbecue autour des stades. Donc là-bas, c'est différent que dans des villes plus accessibles. Il y a une atmosphère de petites villes comme à Kansas City ou Philadelphie. Dans tous les cas, les bars et les restaurants vont être pleins. Il y a la fièvre de la Coupe du Monde, mais c'est différent de d'habitude.
Alors Edgar, on avait peur des stades vides avant cette Coupe du Monde. Finalement, c'est pas du tout le cas.
Bien au contraire même, puisque cette Coupe du Monde est en train de battre tous les records. Selon la FIFA, il y a plus de 3,6 millions de spectateurs qui ont assisté à des matchs au stade pour l'instant, ce qui en fait déjà le mondial avec le plus d'affluence de tous les temps. L'affluence moyenne par match est de plus de 64 000 spectateurs.
En revanche, Edgar, il y a une autre crainte qui s'est avérée très juste, celle d'avoir des billets à des prix exorbitants.
Oui, beaucoup de passionnés n'ont pas accès au stade à cause des prix. C'est souvent le cas au Mexique, notamment, où le pouvoir d'achat est bien moins important qu'aux États-Unis. Un supporter m'a dit qu'il avait payé l'équivalent de plus de 2200 euros pour voir un match de son équipe, alors qu'en 2018, en Russie, il avait payé moins de 300 euros. C'est un sacrifice financier énorme pour lui. Ce problème de prix fait beaucoup parler au Mexique et l'ancien international mexicain Tato Noriega regrette énormément la situation.
Il y a un certain mécontentement, c'est un sujet récurrent dans toutes les réunions sociales, les dîners entre amis, les discussions familiales, la difficulté que cela représente pour des millions de personnes qui, par le passé, trouvaient une façon de faire un sacrifice économique pour pouvoir assister au moins à un match. Aujourd'hui, ce sacrifice n'est plus possible à cause des prix élevés qui rendent la Coupe du Monde un peu élitiste.
Et non tenir problème con ellos, si es que si, si es un tema récurrent.
Mais ce que vous nous dites ce matin, Edgar, c'est que le souci des prix exorbitants, ça ne concerne pas que les billets pour les matchs.
Oui, et ça, certains supporters français qu'on a croisés l'ont appris à leurs dépens.
Franchement, les bouteilles d'eau à 7 dollars et les bières, c'était à peu près 13 et 14 dollars. Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Ma globalité, j'avais préparé 10 000 euros. Là, je suis à 2 000 pour l'instant.
C'est le prix des tarifs pour tout ce qui est transport pour aller au stade. C'est des montants qui sont exorbitants pour un sport populaire qu'est le football. C'est pas très acceptable. Franchement.
Edgar, bon alors pour l'instant le bilan du coup il est plutôt positif ou négatif ?
Eh bien, il est très positif pour la FIFA, très positif pour ceux qui ont les moyens de se rendre dans les magnifiques stades de cette Coupe du Monde, très positif aussi pour ceux dont l'autorisation d'entrer sur le territoire américain a été validée. Le bilan est beaucoup moins bon pour certains passionnés écartés de l'événement par faute de moyens ou de visa. Bref, c'est tout ce qu'on pouvait attendre d'une Coupe du Monde aux États-Unis en 2026.
Edgar Grolot, journaliste RMC Sport, l'un de nos 40 envoyés spéciaux aux États-Unis pendant le Mondial. Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. France-Norvège, c'est ce soir à 21h.
RMC, le Mondial de Virginie.
Dernier match de poule des Bleus, donc rencontre à suivre évidemment sur RMC, France-Norvège, et ça se passe à Boston.
C'est qu'en ce moment, on a une petite obsession pour la météo, canicule ici, orageuse dans la capitale du Massachusetts. Je pensais pas que tout le monde s'y mettrait, là, c'est
magnifique cette chanson.
Bah oui. Donc, il y a un risque d'orage ce soir encore autour du stade de la banlieue de Boston. Alors, avant de se demander si les Bleus vont gagner, on peut peut-être déjà espérer que la foudre ne va pas se déclencher à 13 km à la ronde, hein, sinon on va recommencer comme ce qu'on a vu contre l'Irak.
Et alors, vous dites que les Bleus jouent à domicile ce soir?
Bah, Boston, déjà, c'est là qu'est leur camp de base. Mais le stade lui-même, le Gillette Stadium de Foxborough, est un peu français. C'est l'entreprise française Tarkett qui a installé la pelouse. C'est pas si anodin que ça, parce que c'est cette entreprise qui s'occupe des gazons de Clairefontaine, pelouse sur laquelle les Bleus s'entraînent en France. Donc oui, on joue à domicile.
On joue à domicile, et avec beaucoup de supporters derrière les Bleus.
Ben, on aura même des supporters tout nouveaux. Tous les Scandinaves, sauf les Norvégiens, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportent pas la façon dont les Norvégiens encouragent leur équipe avec leur fameux Viking Row. Voilà, les fans qui miment les rameurs des drakkar vikings au rythme de tambour en poussant des cris. Les joueurs norvégiens le font, même les députés norvégiens s'y mettent. C'est efficace, mais ça plaît pas à tout le monde parce qu'il y en a qui accusent les Norvégiens d'avoir copié ce que faisaient bien avant eux les Islandais. Et puis bon, on le reconnaît, en Suède, au Danemark, c'est surtout de la jalousie entre pays voisins. Donc allez, tous les jaloux avec nous.
Moi, on prend tous les Scandinaves, que les Suédois, les Danois soutiennent l'équipe de France ce soir. France-Norvège à 21h à suivre en direct et en intégralité sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, fallait-il le rappeler. L'avant-match, c'est dès 18h. L'after-foot, c'est jusqu'à 1h du matin, voire plus, hein, s'il y a des décalages à cause de l'orage, etc. On suivra évidemment. Merci Virginie Fulpin. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain Marchal ? Bonjour Alain.
On bien reviendra sur le naufrage des pouvoirs publics à propos de la climatisation. On a maintenant les écologistes qui estiment qu'il faut un plan clim prioritaire à l'hôpital. On regardera précisément aujourd'hui aussi pourquoi les magistrats sont en colère et appellent à une journée justice morte depuis qu'il y a eu des sanctions. Et nous recevrons Marion Maréchal dans les GG. Allez, à tout de suite au 32-16.